Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, celle que l'on n'attendait pas. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVR. Edmond, commandeur, est assis dans un fauteuil près de la cheminée. Il se sent vieux ce soir, vieilli. La porte du salon s'ouvre. C'est Philippe, son fils. Il s'approche de son père. Le père le voit venir et le regarde bien. Le fils se soit assis à côté de lui, sur un fauteuil. Qu'avez-vous à me regarder ainsi, père?
Je viens de m'apercevoir que tu n'es plus un jeune homme.
Philippe pâlit, car il se sent jeune.
Tu as quel âge?
30 ans. Pour la première fois, son âge lui pèse.
Eh oui, tu n'es plus un jeune homme. Tu sais, le corps vieillit plus vite que l'esprit. Tu ne vois pas les années passer. Tu as envie de courir, de faire des tas de choses. Et puis, un jour, tu te rends compte que ton corps ne suit plus et qu'il est grand temps de faire un choix sur ce que l'on veut ou l'on ne peut encore faire.
Pourquoi parlez-vous comme ça?
Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit que le temps est passé, que l'on se dégrade.
Vous n'êtes pas si vieux que cela, père.
Les belles années sont derrière moi. Il y a des tas de choses que je ne peux plus faire. Et ce matin, en me regardant dans la glace, je me suis vu en vieillard. Toi, tu es trop jeune pour que ton miroir puisse te montrer en vieillard. Mais l'on peut te rappeler que tu vieillis d'une autre façon. C'est peut-être par mon intermédiaire ou celui d'un autre que tu apprendras que le temps passe et que nous sommes tous mortels.
Voyons, père, je n'aime pas vous entendre parler ainsi. Vous voulez boire quelque chose ?
Non.
Eh bien, moi, oui. Il se lève et va dans un coin du salon où se trouvent sur une table basse des bouteilles et des verres. Se sert un verre de vin. Où faites père? Vous ne m'attendrez pas pour dîner ce soir. Je rentrerai tard.
Où es-tu?
Je vais danser avec quelques amis.
Au lieu de t'en courir, tu ferais mieux de chercher à te marier. Il serait grand temps.
Philippe hausse ses épaules. Je ne suis pas pressé.
Mais la vie ici.
Philippe retourne vers son père. Bonsoir, père. Et il sort du salon. Philippe, qui vient de sortir, est grand, les cheveux bruns, ses traits du visage sont fins et le font paraître plus jeune que son âge. Il porte un costume gris foncé. Son père soupire au fond de son fauteuil.
Ce garçon restera toujours un gamin.
Le père est maigre, les cheveux gris, le nez fin et pincé. Il semble être grand, est habillé d'une robe de chambre bordeaux. Le feu a baissé. Il se dit qu'il aura plus chaud dans sa chambre. Il se lève et sort du salon. Qui est meublé en meuble Louis XV. Les commandeurs ont leur hôtel particulier du 19e siècle à Lyon sur les bords de Saône. Le père a pour profession le commerce de la soie. Le lendemain matin, s'arrête devant la maison un fiacre.
Attention, un docteur accident en posture. Dernière édition.
Où sort avec ses bagages une jeune fille qui semble avoir dans les 20 ans. Elle est grande, mince, une peau de porcelaine. Sous son chapeau, on peut voir ses cheveux blonds peignés en chignon. Elle porte un manteau beige. Elle sonne à la porte de l'hôtel.
Salut, beauté.
Lui ouvre.
Et quand je
un domestique.
Que je ne sais pas, madame.
Je suis la petite fille de monsieur de commandeur.
Bien, madame. Monsieur vous a prévenu de votre arrivée.
Entrez, je vous en prie. Vous avez des bagages ?
Oui. Je vais vous en occuper.
Elle entre.
Madame désire ?
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi. Une place.
Dans le hall d'entrée, elle voit Philippe, il lui sourit et accourt vers elle. L'embrasse. Bonjour Odile, tu as fait mon voyage?
Oui mon oncle.
Je suis heureuse de te revoir, tu ne peux pas savoir. La maison était si triste, père se sent si vieux et ne pense qu'à la mort.
Où est-il?
Au salon, nous y allons. Tu te souviens de nos jeux?
Oui bien sûr mon oncle.
Il a fait rentrer au salon. Là,
Elle voit assis dans un fauteuil près du feu Édouard. Elle court vers lui et se penche pour l'embrasser. Mon grand-père, comme je suis heureuse.
Moi aussi, ma petite Odile, comme tu es devenue belle.
Alors, il paraît que vous n'avez pas le moral, mon oncle.
Ce n'est rien, que le temps qui passe trop vite. Tu restes combien de temps?
Tout le temps que tu voudras.
Quant à moi, mon enfant, ce ne sera jamais assez.
Oui, mais ma mère a besoin de moi. Elle n'est pas très bien.
Philippe s'approche d'eux et dit,
durant ce mois, nous allons bien nous amuser.
Le père sourit et dit,
regarde-moi ce grand dadais qui ne pense qu'à s'amuser au lieu de chercher une compagne.
Odile sourit. Philippe regarde Odile. Un domestique entre dans la pièce.
Et dit, le repas est servi.
Odile sursaute.
Oh, déjà, j'ai à me changer.
Le soir même, malgré la lassitude d'Odile, il a tenu à l'amener au restaurant.
Vous resterez quelque temps parmi nous en Bourgogne?
Certains. Pensez-vous, papa? Ils sont 76.
Il n'est pas formidable. 76 de qui?
Durant le repas qu'il mange sans faire attention, il ne cesse de la regarder.
Vous êtes extrêmement belle, Odile. Merci, mon oncle. Tu te souviens de nos jeux?
Oui.
Et c'était vous qui étiez le plus enfant. Et il est vrai que vous ne faites absolument rien?
Oui, c'est vrai. Mais c'est normal, la jeunesse est insouciante. Cela fait rire Odile et se dit qu'il ne doit pas se voir souvent dans la glace. Pourquoi riez-vous?
Pour rien, mon oncle. Je trouve que vous avez l'esprit tellement jeune que cela me paraît incroyable.
Je ne suis pas vieux. Bien sûr que non.
L'âge n'a rien à y voir. Il y a des jeunes vieux.
C'est l'esprit qui compte.
Philippe se sent bouillant d'amour pour cette jeune fille. Il y a en plus de l'esprit.
Vous ne trouvez pas que vous installez quelque temps parmi nous en Bourgogne?
Oui, certains.
Les jours passent, ils sortent tous les jours. La journée, il l'accompagne lorsqu'elle fait ses emplettes. Le soir, il l'amène à des soirées dansantes. Les maisons où il la présente, tous la trouvent belle et charmante. Il sent avec fierté les regards d'envie des autres. En dansant, il lui dit, formons le plus joli couple de la soirée. Mais Odile s'aperçoit, elle, que son oncle l'accompagne un peu trop et qu'elle ne peut pas faire des connaissances avec des jeunes gens de son âge. Elle aimerait dire à son oncle
de la laisser un peu seule. Oh, un peu seule.
Oh, magnifique. Fabuleux. C'est à mon cou qu'il devrait être.
C'est vrai, Sophie. Vous paraissez toute nue sans ce collier.
Quelque temps, cela commence à l'agacer. Et un soir... Je ne désire pas sortir ce soir, mon oncle. Je suis fatigué. Bien, nous jouerons au rami. Non plus. Je me sens très lasse. Après le dîner, je me retirerai dans ma chambre. Bien, Odile. Pour la soirée, le père et le fils se retrouvent seuls au salon, près du feu. Le père lui dit,
« Elle a besoin d'eau pour. Tu cours toujours. Les gens ne sont pas comme toi, surtout les jeunes filles. À ton âge, tu ne les connais pas encore. »
Le lendemain matin, au petit déjeuner, Philippe demande à Odile « Vous allez mieux ?»« Oui, merci. »« Très bien, nous allons pouvoir continuer nos soirées. » Odile soupire. Et le soir même, il l'amène à une de ses soirées. Odile a décidé de s'éclipser au moment de l'étreinte de son oncle pour pouvoir danser et faire connaissance avec d'autres personnes. Après avoir dansé avec lui, elle lui demande « Venez me chercher une petite coupe de champagne. » Bien, Odile, et il court la lui chercher. Pendant ce temps, elle s'engouffre dans la foule des invités et va se mettre près de la fenêtre. Elle se sent plus libre. Vient vers elle un jeune homme d'une vingtaine d'années à peu près. Il est grand, blond, mince. Un peu gauchement, il lui dit « Vous ennuyez pas trop ?»« Oh non, j'aime bien ces soirées. Et enfin, lorsque l'on n'est pas chaperonné, par votre père ?»« Non, un vieil oncle. » Oh, c'est encore plus grave. Les vieux oncles sont pour la plupart jaloux. Les mères au moins cherchent à caser leurs filles, me dit le sourire. Au moins les jeunes gens n'avaient pas ces problèmes. Oh, que si! Ma mère est jalouse et mon père aimerait que je quitte la maison familiale le plus vite possible. Mais assez parlé d'eux. Si je vous invitais à danser, elle sourit. Oui, je veux bien. Elle le trouve joli garçon et pas bête. Je m'appelle Armand Baudrier et vous, Odile Delpierre. Vous êtes de Lyon pour un mois, oui. Ah, faudra que nous revoyions. Je suis étudiant en droit et veux prendre la suite de mon père. Il est au barreau. Mes études me laissent assez de loisirs. J'ai beaucoup de mémoire. Vous croyez que votre oncle me permettra de vous sortir? Faudra le lui demander. Vous connaissez les aqueducs de Mauban? Non. Les vers de Lamartine, non plus. Je vous ferai connaître tout ça. Voir que la valse est finie, il tombe nez à nez sur Edmond. Odile, je te cherchais de partout. Où étais-tu? Vous le voyez bien, mon oncle. Nous dansons, Odile. Mon oncle, je vous présente Monsieur Armand Baudrier. Enchanté, monsieur. Allez, venez, Odile. Mon oncle. La prend par le bras et l'emmène danser. Elle est furieuse. Elle est furieuse. Où est le charmant jeune homme maintenant? Après ce qui s'est passé, il ne voudra sûrement plus la revoir. Mon Dieu, comme je suis malheureuse. Vous pleurez, Odile? Mais non, je suis fatiguée. Je veux rentrer. Bon, que vous le désirez. Elle se dit, qu'est-ce que je peux seulement décider, désirer quelque chose? Dans le fiacre, la ramène à la maison, elle ne parle pas, et Edmond s'aperçoit qu'elle boude. Une fois arrivé chez eux, il lui demande « Vous semblez en colère. Ai-je fait quelque chose qui vous déplaise ?»« Mais non, vous avez été parfait, comme toujours d'ailleurs. » Mais non, mon oncle, j'ai 20 ans, je ne suis plus une petite fille, et j'ai besoin que l'on me traite comme une femme. Bien sûr, Odile, et je tiens à vous traiter comme une femme. Venez, asseyons-nous au salon, j'ai à vous parler. Ils vont s'asseoir l'un en face de l'autre. Voilà, Odile, ce n'est pas facile à dire. Depuis votre retour, je vous vois, comme vous dites, comme une femme, et tiens à vous aimer comme une femme. J'aimerais, si vous êtes d'accord, demander votre main. Elle est rouge de stupeur. Mais mon oncle, cela ne se peut pas, nous sommes de la même famille. Vous êtes ma cousine, mais seulement par alliance, puisque vous êtes la belle-fille de ma sœur. Et en demandant une dispense, elle baisse la tête et lui dit « Je vous estime beaucoup, vous aime bien, mais je ne peux vous aimer. Croyez bien que je le regrette, mais je ne peux. Je comprends, mais c'est peut-être le choc de la nouvelle. Attendez avant de me répondre définitivement. Réfléchissez bien. » « Je veux bien, mon oncle, mais rien n'y ferait. Vous resterez toujours à mes yeux un bon oncle que j'aime beaucoup. » Mais je ne peux pas plus. Bien, je comprends. Il se lève. Lui donne un baiser sur le front. Bonne nuit, ma petite. Bonne nuit, mon oncle. Et il sort du salon. Triste là, il ne comprend pas son refus. Elle, elle est paniquée par cette demande. Mon Dieu, me marier avec lui? Il est beaucoup trop vieux pour moi. Et en lui refusant, je lui fais tellement de peine. Que faire? Non, je ne veux pas. Et elle se lève pour aller dans sa chambre. Demain matin, il est décidé de conquérir le corps de sa nièce. Elle, après une nuit d'angoisse, décide de parler à son grand-père. Le matin, après son petit déjeuner, Elle va le voir à son bureau.
Tu veux quelque chose, mon enfant ?
J'aimerais un conseil, grand-père.
Assieds-toi, je t'écoute.
Elle va s'asseoir devant le bureau.
Il faut tout d'abord ne rien dire à Edmond.
Je te le promets.
Voilà, ce n'est pas facile à dire. Edmond vient de me demander en mariage. Je l'aime beaucoup, c'est un bon oncle, mais je ne peux accepter.
Le grand-père sourit.
Edmond est un imbécile. Tu es beaucoup trop jeune pour lui. Ne te fiche pas de ce qu'il t'a dit. Il ne voit pas les années passées et s'imagine être encore un tout jeune homme. Tu vois bien comme il se comporte. Dis-lui non. Que tu es jeune et que tu n'as pas besoin d'un vieux beau.
Mais je ne peux pas dire ça.
C'est moi qui le lui dirai. Et puis, il faudra bien que quelqu'un lui fasse comprendre qu'il n'est plus un jeune homme, puisqu'il ne peut le comprendre tout seul.
Pendant ce temps, un domestique annonce à Edmond l'arrivée pour lui d'une malle.
Tiens, portez-la dans ma chambre.
Une fois la malle portée à sa chambre, il va la voir.
Une grande malle en bois avec des armatures en fer.
Il y a juste sur une étiquette le nom du destinataire, rien de l'expéditeur.
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Il se penche pour l'ouvrir. Elle n'est pas fermée à clé et il décroche le crochet et l'ouvre.
Dedans, recroquevillé, en costume noir, un homme, ou plutôt un cadavre d'un homme d'à peu près une trentaine d'années.
On frappe à la porte. D'instinct, il referme la malle.
Oui, c'est un domestique. Monsieur, votre père désirait vous parler.
Bien, je descends. Il soulève encore une fois le couvercle de la malle.
Oui, c'est bien un cadavre. Il n'a pas rêvé.
En sortant de sa chambre, il décide de ne rien dire à son père. Cela risquerait de le mettre dans tous ses états. Je vais dire au domestique que c'est une erreur et qu'elle n'est pas à moi. Il la remettra dehors.
Il va retrouver son père au salon.
Assieds-toi.
C'est ce qu'il fait.
Alors, mon bon, qu'est-ce que cette histoire ? Tu fais peur à ta nièce ? Qu'est-ce que cette histoire de demande à mariage ridicule ?
Mais je l'aime, mon père.
Tu l'aimes, oui. Alors, tu veux son bonheur, non ? Tu crois qu'elle sera heureuse avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle ? Voyons, regarde-toi dans la glace. Deviens adulte, il est grand temps. Elle ne serait pas heureuse avec toi. La jeunesse a besoin d'être avec la jeunesse. Laisse-les ensemble. Et puis, le temps passe et il serait temps de rentrer dans le monde de l'âge adulte. Laisse cet enfant tranquille. Et sois un bon oncle.
Edmond est effondré. Il quitte son père
sans rien dire. Arrivé dans sa chambre, il retrouve la molle. Il l'avait complètement oubliée. Il l'ouvre. Il voit le cadavre. En levant la tête, il voit dans le miroir son visage et s'aperçoit qu'il ressemble au mort. Touche son visage et regarde le mort. Troublé, il referme la molle. Le domestique l'appelle pour le dîner. Il sort de sa chambre. Durant le repas, il ne sait pourquoi, mais il se sent à part. Quelque chose l'empêche de se mêler à la conversation et personne ne s'occupe de lui. Après le repas, ils sont tous les trois au salon pour passer la soirée. Son père est assis dans son fauteuil habituel près de la cheminée. Odile est assise près de lui pour lire. Philippe, un peu en retrait d'eux, la regarde. Il la trouve très belle et juvénile. Elle lève la tête et dit « Demain matin, j'aimerais monter à cheval et suivre les bords de la Saône. » Philippe lui dit « J'irai avec vous. Je veux bien, mon oncle, si vous êtes capable de me suivre. Et pourquoi ne serais-je pas capable de vous suivre ? Je saute les obstacles et je ne sais si vous avez assez de souplesse pour en faire autant. Ne vous faites pas de soucis pour moi. » Une fois dans sa chambre, il se sent là et triste. Il tombe sur la molle qu'il avait complètement oubliée. Soupire. Demain, je la ferai enlever. Il ne sait pourquoi, mais il a envie de le voir. Il ouvre la molle. Il est toujours là et semble regarder. Tu me regardes? Que veux-tu me dire? Que je suis mortel, moi aussi? Que tu viens me chercher? Non, je suis encore jeune. Il ferme le couvercle de la molle. Et se voit dans le miroir. Il lui semble qu'il ressemble encore plus aux morts. Il se déshabille et se prépare pour se coucher. Cela ne le gêne pas du tout de dormir près du cadavre. Ce n'est pas du cadavre qu'il a peur, mais c'est de sa propre mort, de sa décomposition,
ou plutôt de savoir que le temps le rapproche de cette dégradation physique. Le lendemain matin, après avoir pris son petit déjeuner au salon avec son père et Odile, il demande au domestique d'enlever la malle. Et si vous ne savez pas sa provenance, mettez-la dans une décharge. Il est parti avec sa cousine faire du cheval. Cette course à cheval a été épuisante pour lui. Odile est une très bonne cavalière, infatigable. Lui a toutes les peines du monde à la suivre. Après 2 heures de galop de suite, le voyant épuisé, elle décide de faire une halte avant le retour et vont dans une petite auberge au bord de la Saône. Ils ont commandé du vin blanc et de la friture. Elle le regarde avec le sourire, le visage prêt. Alors mon oncle, cela ne m'a pas été trop pénible ? Il est en sueur et essoufflé. Vous voyez, j'ai réussi à vous suivre, elle lui dit. Feriez mieux de suivre une femme de votre âge, c'est moins pénible. Il voit que ce qu'elle vient de dire lui a fait de la peine. Il a blêmi. Je disais cela par plaisanterie, pour plaisanter mon oncle. Après avoir mangé et bu en silence, ils s'en sont retournés. Elle a filé moins vite pour éviter de le fatiguer. Une fois arrivé, il retourne à sa chambre. Là, il tombe encore sur la malle. Tu es encore là, toi ? Il l'ouvre. Et le voit. Il semble le regarder d'un air moqueur. Oui, je sais, tu te moques de moi. Mais je suis encore fort et jeune. Et referme la malle. Après s'être changé, il sort de sa chambre. Il tombe sur un domestique qui lui dit : Monsieur, votre malle est bien à vous. Monsieur, votre père l'a ouverte et dit que c'est bien à vous. Comment ? Non, rien. Je vais voir avec mon père. Il retrouve son père au salon. Père, qu'est-ce que cette histoire de malle ?
Ce sont tes affaires que j'ai faites revenir de la campagne à cause des travaux. Il fallait déménager certaines choses.
Vous êtes sûr, mon père ?
Bien sûr que j'en suis sûr, puisque c'est moi qui ai rempli la malle.
Mon père, voulez-vous venir avec moi voir cette malle ?
Pourquoi faire ?
Ce n'est pas notre malle. Venez la voir, s'il vous plaît.
Bien.
Il se lève et suit son fils.
dans la chambre, le père ouvre la morle.
Philippe voit que se trouve à l'intérieur du linge et des livres.
Tu vois bien, mon fils.
Excusez-moi, mon père, je ne me sens pas bien. Je vais m'allonger.
Ce doit être ta promenade à cheval. Je vais te laisser.
Il sort de la chambre et Philippe s'allonge sur le lit.
Avoir des visions, je dois être fatigué. Il est en sueur et a le souffle court. Après une heure de repos, il se lève pour sortir de sa chambre. Il retourne au salon. Son père est Odile. Elle semble tout excitée. Elle va et vient dans la pièce. Dès qu'elle le voit, elle va vers lui et lui dit :
Tu te souviens de la dernière soirée où nous avons été ensemble ? J'ai dansé avec un jeune homme charmant. Tu te souviens pas du jeune homme ?
Non, je ne vois pas.
Eh bien, figure-toi qu'il a réussi à me retrouver et m'invite pour la soirée de chez sa mère.
Eh bien, c'est bien. C'est quand la soirée ?
Demain soir. Je suis libre, nous y allons.
Mais mon oncle, je peux parfaitement y aller seul.
Une jeune fille doit toujours être accompagnée.
Mais qu'allez-vous faire ? Il n'y aura que des jeunes de mon âge, il n'y aura que de la jeunesse.
Ça lui fait mal.
Je tiens à y aller.
Elle soupire et dit :
Ma foi, si vous tenez à être ridicule.
Ils vont à la soirée. Armand Baudrier est venu chercher Odile. Il était surpris d'apprendre que son oncle venait avec eux. Armand et sa famille habitent une grande maison du côté de Caluire. C'est une bâtisse du XVIIIe siècle. Lorsqu'ils y arrivent, il y a foule. Ils ont tous dans les 20 ans. Toutes les personnes plus âgées se sont éclipsées.
Philippe,
dès son arrivée, se sent gêné de trop. Mais il veut passer outre et montrer qu'il n'y a que pas beaucoup de différence entre eux et lui. Il fait danser des jeunes filles qui se comportent avec lui comme s'il était leur père. Odile est très heureuse et entourée d'admirateurs. Philippe ne peut l'approcher. Pour la narguer, il danse, boit et cherche à être comme les jeunes gens.
Les jeunes qui le voient rient en cachette.
Ils se demandent quel est ce vieux pantin qui cherche à leur ressembler.
Je suis fier. Je suis très fière.
Après deux heures de danse, boissons, conversation, où c'est beaucoup excité pour défendre ses idées, se sent un peu lent. Il va s'asseoir en titubant de fatigue dans un coin. Malheureusement, il entend des jeunes gens parler politique, peine de mort. Il se sent obligé de participer à la conversation. Et le bal continue.
La princesse de Lampedusa. la comtesse Soutera.
Très honorée.
Je suis vraiment heureuse de vous connaître, colonel.
Pour revenir, nous avons mis 3 jours de plus.
La princesse Scorbera de Salina.
Bonsoir, colonel.
Heureux de vous connaître, princesse. Bonsoir.
Bonsoir.
Le bal se termine peu à peu. Les gens commencent à s'esquipser.
Excuse-moi. Il faut que j'aille voir si Angélica arrive.
Naturellement, c'est juste là.
Excuse-moi.
Mais colonel, c'est vraiment exact. Oh, colonel, racontez-nous.
Je pleure, la comtesse. C'est vrai, je pleurerai comme un enfant.
C'est bouleversant. Mais
Garibaldi,
comment était-il?
Lui, il était beau et calme comme un dieu.
Le bal s'est terminé. Il a retrouvé Odile en train de rire.
Le colonel est en train de leur expliquer comment il a mis fin royalement à l'envol de Garibaldi. De l'ego de la première.
Avec Armand. Puis,
c'est en retard, je t'attendais.
Odile.
Bonsoir.
A dansé une dernière
c'est
fois.
Allez, viens saluer la princesse. Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Angélica Sedara.
Chérie, laisse-moi te regarder. Mon
Dieu. Après la danse, ils se sont retrouvés nez à nez avec Philippe. On a commencé à éteindre les bougies, à ranger. Les gens partent. Elle le voit pas, les fatigués, les jeunes gens, rieurs, lui disent « Ramène ton pépé au lit !» Elle a de la peine pour lui, et lui dit « Rentrons, Philippe !» Il la suit. Montant à l'étage pour aller dans la chambre, pour aller dans leur chambre. Elle semble heureuse et bien. Lui a de la peine à monter. Il voit sur le palier. Bonne nuit, mon oncle. Bonne nuit, Odile. Elle entre dans sa chambre. Sa chambre, la tête lourde, le regard livide, tremblant, se voit dans le miroir, se reconnaît pas, semble voir la mort. Suis-je aussi vieux que cela? Touche son visage, regarde ses mains. Il sent une lourdeur du côté du corps. Il entend de la pièce voisine Odile chantant et rire. Son corps est plein de lourdeur. Il sent tellement là qu'il s'allonge sur son lit. La tête lui tourne, tout tourne autour de lui. Le souffle court, il n'a ni envie ni la force de crier. Il entend toujours Odile chanter derrière la cloison. Cela lui donne l'impression d'être tombé dans un autre monde, un monde infranchissable entre elle et lui, entre la jeunesse et lui. C'est fini, je ne serai plus jamais jeune. Ceci lui fait mal. Je t'aime, Odile. Tu vois, tu me fais souffrir parce que tu t'éloignes de moi. Je m'éloigne de toi. Tu es belle, Odile. Tu es la vie. Tout à coup, il se lève difficilement, va vers la malle et l'ouvre. Il y a le cadavre. Je savais que tu étais là. Tu es venu me chercher. Tu m'as montré que le temps passe. Sans toi, je m'en serais jamais aperçu. J'aurais été ridicule, la risée des jeunes. Merci de me l'avoir montré. Je vois le visage du mort et sens qu'il y a autre chose. Quoi? Il sent son corps battre très faiblement. Il se soulève et voit son visage dans le miroir. Tu crois qu'il est temps? Tu as peut-être raison. De toute façon, je n'aime pas la vieillesse. Ce n'est pas comme mon père. Il peut vivre jusqu'à 100 ans. Tu es venu me chercher, hein? C'était ça. C'était ça. Il entend Odile qui chante. Souris, c'est la vie, elle est belle. Puis, après une pause, je suis prêt. Il prend la main du cadavre, s'allonge à terre. Tant encore une dernière fois,
Odile. Il est l'heure de dormir, voyons.
Et petit à petit, sa voix, sa vue diminue. C'est le noir. scénario qu'Annie vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Celle que l'on n'attendait pas. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.